Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 60e épisode, et oui, déjà 60 épisodes, Laetitia, qui est, ma foi, je crois, à Berlin. Elle va nous parler, présenter surtout son parcours de designer graphique et directrice artistique, et puis comment elle est devenue indépendante. Mais avant tout, bonjour Laetitia, ou Letty, comment vas-tu ?
Je vais très bien, bonjour Joël, je suis ravie de participer à ce podcast.
Écoute, je pense que c'est un plaisir partagé d'avoir à nouveau une invitée sur ce podcast. Tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir un peu ton parcours personnel et professionnel qui t'a amené à ton activité actuelle. J'en profite au passage pour remercier Anne-Cécile à Stuttgart qui est à l'épisode 57 qui nous a mis en relation. Donc un petit coucou, un petit clin d'œil à Laetitia Stuttgart, Anne-Cécile, pardon. Oh là, je commence déjà. Mais revenons pour toi, sur toi, Letty, raconte-nous un peu ton parcours.
Mon parcours est assez classique. Hein. Je suis née à Pau de père espagnol et de mère française. Et j'ai eu la scolarité normale, lycée, etc. La sortie de mes études, en fait, je suis partie dans une école de design à l'École supérieure d'art et de communication de Pau. Mmh. Où j'ai obtenu mon diplôme national d'art et technique. J'ai décidé de continuer à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens, mmh. où j'ai obtenu mon diplôme national supérieur d'études plastiques, qui est l'équivalent d'un master. Mmh. Et ensuite, il a fallu se lancer dans la vie active, et je suis partie à Barcelone. J'ai travaillé dans une agence de com qui n'était pas très grande, mais qui avait de très très gros clients, et c'est là où j'ai appris mon métier, vraiment. Mmh. Parce qu'en école d'art, on apprend beaucoup sur les concepts, sur la création, etc. Mmh. Mais concrètement parlant, il y a plein de choses techniques à savoir qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc là, ça m'a énormément aidé. Donc, j'y suis restée quelques années. Mmh. Et 2008 est arrivé. Ah. Et 2008, peut-être que les plus jeunes qui t'écoutent, ça reste quelque chose d'assez abstrait. Mais quand on a la quarantaine, on s'en rappelle plutôt bien. C'est l'explosion de la bulle immobilière.
Oui.
Et en Espagne, ça a été très, très violent.
Je vais faire un petit aparté là-dessus. Juste, je ne veux pas faire de discrimination dans la répartition démographique ou d'âge sur ce podcast. C'est vrai qu'on a une population, la quarantaine, beaucoup de personnes, des entrepreneurs qui viennent écouter un peu ce que font les autres. J'imagine la crise 2007-2008, l'Espagne a été fortement touchée. Donc, ça veut dire, quel a été l'impact pour toi ?
L'impact pour moi, c'est-à-dire que la boîte où je travaillais a coulé. Les clients ne payaient plus mon patron. Donc, je voyais que ça allait très, très mal. Mm-hmm. Et c'est là où je me suis dit, écoute, t'as la vingtaine, il est temps d'aller voir le monde. Donc, j'ai fait un peu comme les rats qui quittent le navire juste avant que ça coule complètement. Je suis allée voir mon patron que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup aussi, avec mm-hmm. qui j'avais une très bonne relation. Je lui ai dit, écoute, Mickaël, là, faut que je parte, je pars en Australie, voilà, c'est un truc, ça m'est venu comme ça, donc
okay.
Avant de partir en Australie, j'ai voyagé un petit peu en Europe et en Afrique du Nord, et après je suis partie quelques mois avec ma petite soeur en Australie, Nouvelle-Zélande, et j'ai été voir le monde, ça m'a fait beaucoup de bien.
Vous êtes partie un an, c'est ça, tu as dit ?
Quasiment, oui, quasiment un an, parce qu'il y avait le visa, Working Holidays Visa, qui est autorisé à partir un an en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Donc ça a permis de prendre beaucoup de recul aussi parce que encore une fois 2008 ça avait été très violent, pas seulement au niveau professionnel, c'est-à-dire moi dans mon boulot je voyais que ça allait nulle part, c'était aussi dans la ville de mmh. voir les gens qui faisaient la manche.
Ah ouais.
C'était une atmosphère très très oppressante. Je me rappelle dans le métro de voir des gens qui faisaient la manche et de m'être dit mais ça pourrait être mes parents.
Ah ouais.
Et c'était des gens qui avaient une vie calée, qui avaient leur boulot depuis 30 ans, je ne sais pas, qui est la soixantaine, qui mm-hmm. vraiment classe moyenne, etc. Et tu voyais que ces gens-là s'étaient retrouvés du jour au lendemain sans boulot, sans rien, parce que les aides sociales, il n'y avait pas grand-chose. Mm-hmm. C'était quelque chose de très oppressant et tous les gens autour de moi étaient dans des situations très précaires. Et j'ai eu envie de sortir de ça et de partir à l'autre bout du monde. Donc, c'est un peu radical comme décision, mais
Après.
ça a été le bon moment et j'ai pu voir des choses incroyables. Mais à un moment donné, il a fallu rentrer.
Oui, après la part les voyages forment la jeunesse. Je pense que c'est bien aussi ça, on voit ici vraiment la réalité. Je pense que ça t'a permis d'avoir une c'est de sortir un peu de sa zone, changer d'air, peut-être trouver de l'inspiration. Et ça t'a permis un peu peut-être de comment dire d'alléger l'esprit et le cerveau. Et donc du coup au bout d'un an tu t'es dit bon ben oui il faut revenir en Europe. Et tu es revenu où alors?
Alors, juste une petite note par rapport à ce que tu viens de dire. Je ne suis
Volontiers.
pas partie comme ça en mode luxe, hein. Je suis vraiment partie sac à dos sur les épaules et
Ok.
j'ai travaillé boulot des femmes de ménage. J'ai vraiment fait des choses que je n'avais jamais fait avant pour manger, hein. C'était
Travail
pas.
alimentaire.
Donc, c'était bien aussi pour moi de sortir de mon métier. Je voyais que c'est fatigant d'être créative tout le temps, tu sais.
Oui, c'est ce que
Dans
j'ai
le
compris.
métier que l'on fait, on te demande pas seulement un savoir technique, on te demande d'être créatif. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile. Parce que la créativité, ça vient pas tous les jours. On se lève pas tous les jours avec des supers idées et
Non.
c'est quelque chose qui
Ouais, j'imagine.
est fatigant. Et le fait, bizarrement parlant, le fait d'avoir bossé dans des bars comme femme de ménage, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, d'avoir des tâches qui étaient très claires, très basiques, très mal payées aussi, mais c'était pas grave, ça m'a permis mentalement de sortir, de voir si c'était vraiment ce dont j'avais envie de faire toute ma vie.
Après, il n'y a pas de sous-métier et à moi, c'est vrai qu'un métier alimentaire. Enfin, moi, je veux dire, il y a des travaux, des métiers intellectuels, on va dire, à haute valeur, un ingénieur où on lui demande de résoudre des problématiques. Et il y a des fois, moi, j'ai connu un exemple, un jeune qui avait commencé avec moi en même temps, ingénieur, et sa passion, c'était le basket. Il avait fait des études brillantes en école d'ingénieur, mais au fond de lui, c'était pas son truc. Et il a tout plaqué. Et il est retourné en France et lui c'était le basket et le sport et j'ai appris plusieurs années plus tard qu'il était maître nageur. Voilà, et donc c'est ce que tu dis aussi, c'est bon il y a le côté financier peut-être une qualité de vie et compagnie, mais ça fait peut-être pas tout et au final c'est se dire bon il est revenu à faire ça. Après voilà, je veux pas dire ouais, il y en a qui ont peut-être les moyens, il y en a les moyens que ce soit financier, intellectuel ou mental de se remettre en cause ou de partir sur autre chose. Et puis de
Moi, je
gérer.
me rappelle que les premiers jours de boulot, j'étais ravie de finir à 5 heures, mettons, d'arrêter le travail et de ne plus y penser après. Moi, de ne pas le ramener à la maison, d'avoir vraiment cette séparation entre le travail et la vie privée, ce que je n'avais pas avant. Parce que quand tu travailles en agence de com, tu as des deadlines très, très, très précises. Tu dois toujours penser à de nouvelles idées. C'est quelque chose qui te suit même quand tu n'es pas au travail. D'où je dis, ah, mais pour cette campagne, on pourrait avoir cette idée-là. C'est quelque chose qui te suit. Et là, pour la première fois de ma vie, en fait, je pouvais couper complètement. Et ça m'a fait énormément de bien. Mais voilà, après, je me suis rendu compte que le côté créatif me manquait aussi énormément et que je ressentais une frustration. Donc,
Mauvais problème.
ce voyage a été bon pour moi pour me remettre d'accord avec moi-même sur la suite de mon parcours. Même si ce n'était pas très clair. Parce que justement, il a fallu rentrer, je me suis dit, où est-ce que je vais?
Mais après, c'est aussi qu'est-ce que je sais faire aussi? C'est, je veux dire, moi je dois l'avouer, d'un côté, dans la technique et tout, ça m'intéresse, je suis électronicien, mais j'ai jamais mis les mains dedans et je sais que des gens faisaient mieux, ça bien mieux que moi. Donc, tu peux pas tu savoir quels sont tes points forts et travailler sur cela. On te dit toujours, ouais, il faut essayer de travailler ses points faibles. Et de rééquilibrer les points faibles pour les remonter à avoir des points forts. Et je suis pas convaincu de ça, c'est-à-dire que
Non
y a un
plus.
élément, tu es très bon dans un sujet, ben, il faut faire ce sujet-là, il faut pas chercher à, j'en sais rien, quelqu'un qui est technique, qui est très bon derrière un PC ou un créatif à faire des figures 3D, tu vois, et lui dire d'aller vendre ça, d'aller faire de la prospection, de parler avec des clients, et alors que c'est pas son truc, c'est un introverti, ça l'intéresse pas, il a envie de faire son boulot de 8 heures derrière un écran. Il faut le laisser là-dedans, il faut pas chercher à modifier la personne sur son, comment dire, son point fort ou sa passion. Après, c'est... Voilà. Et donc, tu es revenu en te disant, bon, OK, il faut retrouver un taf, qu'est-ce que je sais faire? Et tu es revenu en Europe.
Mais c'est surtout, je me suis demandé, mais où en Europe? Parce que, en fait, le fait de plus savoir vraiment où je vivais, parce que j'avais un pied à terre en France, j'avais un pied à terre en Espagne, je ne savais pas du tout quoi faire. Et il se trouve qu'avant de partir en Australie, j'avais rencontré un jeune homme dans un festival à Leipzig. Il m'a dit, bah, viens à Berlin. Je suis allée à Berlin avec mon billet retour. Je me suis dit, je vais rester 3 mois, je vais voir ce qu'il y a, parce que moi, l'Allemagne, je connaissais pas du tout. L'allemand, c'était vraiment pas du tout mon truc, j'avais jamais étudié.
Ouais. Oui, du sud-ouest, c'est pas trop dans notre direction, c'est plutôt l'Espagne.
Non, 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 pas du tout. Ça, c'est pas l'allemand, c'est vraiment pas la langue que l'on parle là-bas
Ouais.
à l'école. Donc, je suis arrivée vraiment sans aucun plan, sans rien, juste pour aller voir. Et finalement, ben, ça, j'y suis restée. Là, ça va faire maintenant plus de 13 ans.
Donc ça veut dire à Berlin, tu étais en 2000, 2010, on va dire à peu près.
Oui, en 2010, par là, oui. En
Ok.
2010. Après, j'ai fait un peu comme tout le monde. Il faut d'abord manger. J'ai pris un travail alimentaire. En même temps de ce travail alimentaire en call center, j'ai répondu à une annonce qui était en anglais, où ils cherchaient des graphistes pour une boîte internationale, mais en freelance. Donc, je ne connais plus le terme en français, to apply.
T'as postulé.
Voilà, merci.
Il n'y a pas de problème. On reste international sur le podcast. Il n'y a pas de problème.
Voilà, il y a certains mots, ça devient un mélange dans ma tête entre l'anglais, l'espagnol, l'allemand qui se greffe aussi. C'est un peu, je m'excuse par avance, ça se reproduit.
Non, mais ne t'inquiète
Donc,
pas. Nos auditeurs sont habitués. Ça m'arrive aussi.
J'ai donc postulé à cette annonce où j'ai été prise et puis après, par le bouche à oreille des gens qui ont vu mon travail, on m'a demandé de plus en plus de bosser dessus. Et donc, pendant un an à peu près, j'ai eu ce travail alimentaire à mi-temps et le travail en freelance à mi-temps aussi. Et j'ai dû payer mes impôts et j'ai vu qu'en fait, c'est très pragmatique, hein, j'ai vu que j'avais dû payer beaucoup d'impôts du fait d'avoir cette double casquette. Donc, en gros, tout le travail que j'avais fait en freelance en bossant en soirée, en week-end, etc., je me suis rendu compte que tous ces sous que j'avais gagnés, la plupart allaient partir aux impôts.
Aïe.
Donc ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit que ça ne sert à rien. J'ai un choix à faire maintenant. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et le choix a été assez facile à faire. Je me suis dit je vais faire ce qui est vraiment mon métier et ce que j'aime faire. Et je me suis mis à 100% à mon compte. Et ça va faire 2000.
2010,
Je suis
2000.
complètement.
Ouais, depuis 2010, donc une dizaine d'années déjà que tu es à ton compte pour faire du design. Ça, alors j'aimerais revenir sur deux trucs que je découvre sur ce point-là. C'est le premier, le choc de la réalité, les impôts, hein.
Oui.
Et donc d'être pragmatique, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire bon, j'ai travaillé comme un fou, comme une folle dessus sur le sujet, les heures, machin, sur ma passion. Donc ça, c'est le côté pragmatique. Et le côté. Ta passion ou ton cœur de métier, donc c'était bah, faire du graphisme, j'imagine des campagnes visuelles pour des clients, et se dire, OK, le travail alimentaire, c'est bien, tu te développes pas là-dedans, comme on dit en français, là, tu vois, maintenant c'est moi qui perds mon français,
Je ne m'épanouis pas
tu
là-dedans,
t'épanouis
tu veux
pas
dire?
là-dedans, voilà, c'est ça. Tu as eu le courage de se dire, bon, bah, à un moment, bah, il faut en lâcher un et se focaliser sur l'autre pour vraiment que ça soit ton métier. Donc, il y a eu un pragmatisme, un calcul de savoir, OK, je fais ça, tu fais ça à plein temps, du coup.
Oui, bien sûr, il y a bien entendu le côté émotionnel. Je veux dire, j'ai quand même étudié pendant 5 ans. Enfin, les études que j'ai faites sont quand même un peu compliquées, dans le sens où il y a beaucoup d'écrémage. Certes, c'est pas parce que tu commences que tu vas pouvoir finir ta filière. Pour te donner un ordre d'idée, on était 60 en première année, on n'était plus que 6 en troisième année.
Ah ouais, la
Tu
vache.
vois, donc il y a beaucoup, beaucoup d'écrémage. Donc ce sont des études, ce n'est pas des études de médecine non plus. Hein. Loin de moi de dire que ce sont les études les plus compliquées du monde, mais je veux dire, ça a été compliqué, ça demandait énormément d'investissement. Et ça m'embêtait de me dire que d'avoir passé autant de temps dans ces choses-là pour le jeter à la poubelle et faire un travail pour lequel je n'ai pas été formée, qui ne m'intéressait pas forcément, je ne voyais pas l'intérêt, tout simplement. Et puis après, il y a le côté, le côté, les impôts, la sécu,
Ouais,
les choses comme ça.
garant.
Est-ce que je peux me permettre de me mettre à mon compte? Mais j'ai trouvé des solutions, en fait, tout simplement pour la Sécu. J'ai choisi des mutuelles pour expatriés qui étaient beaucoup moins chères que la Sécu allemande. Ça a été beaucoup de calculs aussi. J'y ai réfléchi. Pas très longtemps, mais j'y ai réfléchi aussi. Je ne me suis pas lancée sur un coup de tête.
Non, mais alors ça c'est bien. Alors c'est bien, tu en abordes un sujet en fait pas sur qu'on voulait aller au début, mais je pense que l'important aussi de se dire voilà, il y a la passion, mais il faut aussi avoir le calcul pour dans le futur, c'est-à-dire la couverture médicale, la couverture retraite, pflegue, donc comme on appelle les soins quand on sera un peu plus âgé, tu vois. Tout le temps créatif jusqu'à un certain âge. Enfin, je ne veux pas, loin de moi de critiquer dans ce sens-là, mais.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Là, ce que tu dis, c'est ce qui me passait par la tête aussi. C'est de voir à plus long terme aussi comment ça peut se goupiller. Après, aussi, à l'âge que j'avais à l'époque, j'avais 25 ans, 26 ans, dans ces eaux-là, tu ne penses pas tout à fait pareil. Genre, par exemple, la grosse bêtise que j'ai faite, hein, et que je paye encore aujourd'hui, c'est l'histoire de la retraite. La retraite, je me suis dit, bon, je verrai plus tard pour la retraite,
Ouais,
etc.
alors qu'il
Et
faut commencer très
je m'y suis
tôt.
pas mise. J'ai pensé à la sécu, j'ai pensé aux impôts, j'ai pensé au loyer, j'ai pensé à tous les jours, j'ai pensé
Tous les
aux
coups.
frais que j'allais avoir parce que moi j'ai besoin de beaucoup bouger, d'aller voir ma famille, mes amis, je connais des gens partout. J'ai pensé à plein de choses, mais la retraite, je l'ai laissée un peu de côté parce que quand c'était un sujet, je me suis dit, ouais, mais ça je verrai plus tard. Et finalement, j'ai jamais regardé et maintenant. J'arrive, j'ai 40 ans, j'ai une fille, j'ai une vie de famille. Je me suis dit, oups, parce que ça, je n'y ai pas pensé, je ne lui ai pas donné l'importance que ça aurait dû avoir. Mais ce n'est pas grave, des solutions, je vais en trouver, j'en ai toujours trouvé, je suis en train de travailler dessus. Mais tout ce côté-là, du côté monétaire, de prévoir un petit peu, est-ce que je vais avoir assez pour vivre? Est-ce que ça va se bien marcher? Parce que l'idée aussi qu'il faut savoir, c'est donc je suis à Berlin, il faut quand même savoir que 90% de la population de Berlin, c'est tous des créatifs, hein, c'est des illustrateurs, des graphistes, des directeurs artistiques, des tatoueurs, des musiciens. Enfin, je veux dire, je suis pas la concurrence est extrêmement rude ici. Et surtout, comment dire, les salaires, les devis qu'on peut envoyer sont extrêmement bas.
Ouais, parce que
On
c'est
n'est
très
pas dans le pays de
compétitif,
l'Allemagne. C'est-à-dire la concurrence est rude et en plus on peut pas se permettre de demander quelque chose de très haut. Donc faut je me suis est-ce que j'ai ma place vraiment là-dessus?
Donc tu t'es différencié sur quoi en fait, ou tu t'es focalisé sur peut-être une niche particulière?
J'aimerais pouvoir dire que oui, que ça a été calculé, etc. Mais en fait, pas du tout. J'ai juste eu beaucoup de chance d'avoir rencontré certaines personnes au bon moment. Et surtout, ça va peut-être paraître un peu niant-niant, mais je pense que le fait d'être quelqu'un d'agréable et qui respecte l'autre m'a beaucoup aidée. Je m'explique. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit tu es super réactive, on voit qu'on peut compter sur toi, que s'il y a quelque chose de compliqué ou qui ne marche pas, tu ne vas pas nous laisser tomber et tu vas vraiment t'investir dans notre projet. Et ça, je pense que ça a fait la différence. Je ne suis pas forcément meilleure ou plus talentueuse que d'autres dans mon métier, mais je pense que le côté humain et le côté sérieux et responsable et commercial aussi, faut le dire, parce que des fois il y a des clients qui me disent ouais mais bon ça tu vois je peux pas payer beaucoup. Je dis écoute on va s'arranger pour cette fois-ci je peux te faire ça moins cher parce que je sais on travaille bien ensemble. Et ça a payé beaucoup. Je suis tombée sur des gens, mes clients, les clients que j'ai. Je n'ai jamais eu aucun problème pour être payée, je n'ai jamais eu aucun problème de quelqu'un qui m'a mal parlé, etc. Ça s'est toujours bien passé parce que ce sont de bonnes personnes qui se sont rencontrées.
Alors,
Tu
c'est,
veux
alors
dire?
c'est, ouais, non, je comprends complètement, et je pense que c'est le côté authentique et honnête que tu as présenté, c'est-à-dire que je ressors de là, ça va être la relation clientèle, c'est-à-dire que t'es pas là pour, tu résous un problème au client, t'es pas là pour, enfin, je suis un peu extrême des fois, me dire de l'arnaquer, de dire voilà, je te fais un graphique, ça va être temps, et puis on passe au suivant. Tu as gardé donc ce côté gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ben comme tu as été honnête et transparente avec ton client, le client va être aussi transparent avec toi en disant, bon, écoute, en fait, j'avais prévu tel budget pour tel projet. Au final, c'est pas comme il voulait, ou ça va coûter plus cher, ou il a eu des comment on appelle, des coûts inattendus. ils ne peuvent pas te payer. Et tu trouves, tu as toujours été ouverte à trouver une solution pour sortir le client de sa problématique. Mais je pense que, et c'est pas que dans l'artistique, je pense que c'est dans toute relation clientèle, acheteur-vendeur ou fournisseur de services et client. C'est-à-dire que le client a une problématique, tu viens avec une solution au plus près de résoudre son problème. Et peut-être que ça ne résout pas complètement sa problématique ou le client, entre-temps, change d'avis, mais il revient vers toi. Donc, c'est des clients récurrents, j'imagine, ou avec qui tu as...
Exactement. Moi, j'en ai eu quelques-uns, hein, des clients ponctuels, on va dire, qui m'ont demandé des choses parce qu'ils ont dit « Oh, c'est super ce que tu as fait, j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ton style. Est-ce que tu peux nous faire ça ?» Mais ce ne sont pas des gens avec lesquels je travaille sur le long terme forcément ou qui vont me donner du travail tous les mois. Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est d'être sûr que tous les mois, je vais toucher assez pour pouvoir vivre en fait. Et donc, les clients que j'ai trouvés, je n'en avais pas beaucoup, mais ceux que j'ai eus m'ont tout le temps donné du travail très, 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 très régulièrement. Ce qui a permis de créer une vraie relation et de faire que leur boîte, c'était devenu aussi ma boîte. Même si je n'étais pas employée chez eux, j'avais à cœur de faire marcher le truc parce que c'est ce que j'avais créé pour eux, c'était mes bébés. Et eux, j'avais envie que ça marche et que ça aille plus loin. Ce n'était pas un travail opportuniste de dire bon, j'ai fait ça, je le mets de côté, j'oublie, je passe à autre chose.
Ouais.
Ce sont des choses que j'ai vu grandir aussi et que j'ai accompagnées sur le très long terme. Moi, les clients que j'ai encore aujourd'hui, ce sont des gens avec qui je travaille depuis 10 ans, tu vois. Enfin, ce sont de longues histoires. On a fait plusieurs projets et à chaque fois, je me suis vraiment...
Donné, on passe à l'espagnol. Chers auditeurs, le podcast de Monsieur Jo va partir en plusieurs langues maintenant. Tu te donnes à fond. Je pense que dans le côté artistique aussi, c'est que le lien émotionnel ou viscéral de la production artistique, c'est toujours ton bébé. Tu le vois grandir. Quand on dit un projet, tu l'as dit toi-même, c'est ton bébé, donc ça grandit. Bon, le lien, je ne veux pas dire le lien maternel, mais il y a le lien avec
qui se développe.
On peut le dire, mais je pense que c'est ouais, pardon. Mais c'est le côté passion et engagement, c'est-à-dire que tu peux avoir cet engagement passionnel dans des choses qui ne sont pas du tout artistiques, parce que c'est le moment du travail bien fait, quoi.
Exactement, tu le résumes assez bien.
Je me surprends aussi.
Ce côté sérieux et réactif, je pense que c'est ce qui fait aussi une grosse différence avec d'autres. Le fait que les gens savent que si je leur dis ça ne marche pas, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de le faire ou parce que ça m'ennuie ou parce que j'ai quelque chose de mieux à faire. Exactement, c'est parce que vraiment, l'avis, les conseils que je donne ont de la valeur et sont pensés pour le client.
Ok.
Et ça, c'est vraiment important. Tu vois, parce qu'il faut être logique aussi. Hein. La plupart des gens qui prennent des freelancers quand ils ont des besoins d'un graphiste ou d'un directeur artistique, parce qu'ils ne veulent pas mettre des sous pour employer quelqu'un à plein temps, etc. Donc, ils veulent économiser des sous.
Ouais.
L'autre côté de la médaille, c'est que... ils savent aussi que cette personne-là, elle est un peu volatile, qu'elle a d'autres clients, que tu ne vas pas être sa priorité forcément. Tu vois, il y a
c'est un compromis à trouver.
Exactement. Donc moi, ce que je rapporte aussi, c'est je ne prends pas beaucoup de clients. Je prends les clients dont je suis sûre, dont je peux répondre à la demande. Je n'ai jamais pris 45 000 projets en même temps. Je me suis toujours arrêtée à me dire non, je ne peux pas en prendre plus, même si j'aimerais bien, ça me ferait plus de sous.
Ouais.
Parce que je ne pourrais pas les faire assez bien. Donc, je me suis limitée à un certain nombre de clients et ce n'est pas faux d'en avoir eu d'autres qui y sont venus. Hein. Mais je me suis dit, les choses, je les fais bien.
Ok, écoute, alors c'est super. Enfin, moi, je trouve l'authenticité et tu as soulevé tous ces points-là, d'en prendre moins, mais de faire quelque chose de qualité. La qualité se paye au final. Puisque les clients reviendront.
Mais très bien, Laetitia. Ça, c'est à oreille. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Le oreille.
Moi, je n'ai jamais eu à faire de marketing de ma vie. Je n'avais pas de site internet, je n'avais pas de carte de visite, aucun réseau social. Je n'étais nulle part parce que je n'en avais pas besoin, tout simplement.
Ça,
donc, c'est juste là, avec la nouvelle crise qu'on a eue il n'y a pas si longtemps, en 2020, où ça a changé pas mal les choses, où j'ai dû repenser... business, trouver d'autres clients, vu que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un de mes clients principaux, qui était dans le monde du tourisme et de l'événementiel, excuse-moi, t'imagines bien qu'en
Tout était
2020,
gelé, ouais.
2021, 2022, ils n'ont rien pu faire. Donc moi, ça a eu pour conséquence de plomber mon activité. J'ai dû repenser ma manière, mon travail et ma situation d'auto-entrepreneur aussi.
Alors ça, c'est pas mal de venir sur ce sujet. Tu fais un peu le lien période Covid 2020, 21, voire 22. Je pense que après ça a impacté tout le monde hein, de repenser comment maintenir son activité, le lien vers le client, le marketing, la visibilité, parce que le marketing au final c'est juste le point visibilité et qu'est-ce que tu apportes de plus par rapport à la concurrence. J'imagine pour toi ça a été une année, on va dire une année creuse comme beaucoup. Tu as repensé ton approche et ça veut dire que tu t'es plus orienté vers accompagner les d'autres auto-entrepreneurs sur leur image ou prendre plus de petits clients. Comment tu as traversé cette période?
Alors, pour remettre aussi un petit peu en situation, je vais me faire une petite digression. C'est aussi qu'en 2020, donc j'ai eu beaucoup moins de travail parce que tous les budgets de mes clients ont
Sont
été
gelés.
coupés, voire des entreprises ont fermé tout simplement. Et ce qui m'a allé dans un certain temps au départ, parce que j'ai donc une fille et que les écoles étaient fermées et qu'il a fallu que je m'occupe de ma fille. Donc voilà, donc ça paradoxalement parlant, ça m'arrangeait aussi d'avoir moins de travail parce que j'ai occupé de ma fille en même temps. Mais c'est arrivé un moment où je me suis dit, ben oui, mais bon, enfin, faut manger,
Il
comment
faut
je
que
vais
l'argent
faire?
rentre, ouais.
Ouais, voilà. Non, je me suis dit, ben je vais sortir de ma cave, je vais sortir de ma zone de confort et je vais essayer de voir dehors comment ça se passe pour les gens. Et en fait, tout simplement, j'ai commencé petit à petit à remonter mon travail, à montrer mon travail, à me vendre un petit peu plus, dans le sens où pas en allant de manière active, mais de manière passive. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens et j'ai attendu d'eux qui viennent voir ce que je veux voir. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va m'avancer, je ne sais pas me vendre du tout, je ne suis pas commerciale. Je déteste les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise du tout. Je suis juste allée voir les gens en fait. Vraiment, c'est vraiment l'image. Je suis sortie de ma cave et je suis allée voir les gens. J'ai rencontré des auto-entrepreneurs et pareil, bouche à oreille, tu rencontres quelqu'un, il regarde ce que tu fais, on
Il connaît
parle,
quelqu'un
qu'est-ce que
d'autre.
t'aider, etc. Ben, tu vois, ça, tu devrais faire ça comme ça. Ah bon, ben oui. Et petit à petit, en fait, j'ai noué des contacts qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes aussi, etc. Et c'est comme ça que ben, j'ai des nouveaux clients qui sont arrivés. Et mes clients réguliers, des grosses entreprises, etc., que j'avais avant, sont revenus aussi. Hein. Donc
Oui, parce que.
ça va beaucoup mieux maintenant. Mais c'est ça, c'est le fait d'avoir fait ce pas de sortir de la cave et d'être plus active qu'être passive et attendre que tout arrive. Ça m'a obligé à faire ça.
Ok, ça veut dire que tu t'es ressorti de ta zone de confort sans l'approche agressive. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu as dit commercial, je suis pas commercial, machin, d'écouter ce qui se fait autour. Tu disais, bon, j'aime pas les réseaux sociaux, mais la mise en réseau, je veux dire, c'est mon point de vue. Hein. Les réseaux sociaux, pour moi, ne sont qu'un outil sur une extension, parce que c'est ce qu'on disait, une relation commerciale. On est des êtres humains, on a besoin de ce contact, de se voir. Et que tout le business ne se fait pas nécessairement qu'en ligne. C'est-à-dire qu'il y a besoin de se rencontrer et de voir s'il y a, je ne sais pas si on dit une alchimie, mais si voilà, si on peut fonctionner ensemble, tu vois. Quelqu'un qui apporte un service, quelqu'un qui a un besoin. Tu peux être le meilleur de l'activité pour résoudre le problème du client, mais si ça, il n'y a pas d'accroche ou il y a un sujet, parce que c'est peut-être un peu. Et ça ne va pas se faire. Donc c'est pas mal parce que, dans le sens, et c'est ce que tu as dit, c'est du réseau. C'est-à-dire qu'une personne parle de toi, la qualité va se parler de bouche en oreille. C'est-à-dire, mais tiens, je connais quelqu'un, tiens, tu pourrais faire ça, ouvert à modifier des choses. À évoluer et je pense que ça revient régulièrement sur ces épisodes, c'est-à-dire que cette ouverture à se remettre en question ou à accepter des améliorations, et je pense que moi j'en apprends tous les jours sur les podcasts, c'est-à-dire en fait, tiens, ces gens-là font des trucs formidables, c'est inspirant. Donc ça t'a permis de comment dire, traverser cette période un peu trouble, qu'on va dire, pour ajouter, on va dire, une corde à ton arc.
Exactement. Je me suis pas basée sur enfin, parce que, encore une fois, la concurrence est très très rude dans mon métier, hein. C'est pas, il a fallu trouver une autre façon de faire, une façon qui me corresponde à moi. Et ce qui me correspond à moi, c'est le côté humain, c'est de voir les gens et de les rencontrer, de discuter, en fait. Donc, c'est comme ça que ça a marché et c'est comme ça que ça me va parfaitement bien aussi. Voilà.
Écoute, c'est super. Écoute, Lucie, on discute sur les thématiques passionnantes, tu vois. Je me disais qu'est-ce que fait un directeur artistique? On n'a pas trop abordé le détail de quel est le métier, parce qu'il y en a peut-être 36 000 métiers derrière. Mais bon, je pense qu'après, l'objectif aussi de ce podcast, c'est surtout de partager un parcours de vie avec des conseils. Et quand on dit conseil, on arrive un peu à la fin, donc je ne sais pas si Laetitia, tu as d'autres sujets à aborder, mais moi j'avais un peu une question dans le sens où qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui peut-être se lance dans l'artistique ou qui se lance en tant qu'entrepreneur? Ça serait quoi ton conseil?
Alors, la première des choses, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-entrepreneuriat, c'est une profession à part. On peut être un très bon professionnel, on peut être un très bon ingénieur, on peut être un très bon artisan, on peut être etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être un bon auto-entrepreneur. Ce sont deux choses différentes. Une chose, c'est connaître son métier, ce pour quoi on est formé. L'autre chose, c'est savoir comment se vendre et tout le tralala qu'il y a autour. Auto-entrepreneur, c'est s'occuper de toute la paperasserie administrative, c'est s'occuper de faire des devis, c'est s'occuper de courir après les clients qui ne payent pas ou qui sont en retard, c'est s'occuper de sa communication personnelle pour avoir de nouveaux clients. Ce sont plein de choses aussi où on n'est pas payé. Donc il faut se rendre compte que sur les 8 heures de travail que l'on peut faire par jour, il y en a peut-être 3 qui ne vont pas être payées. Et ça, faut pouvoir l'accepter parce que ça fait partie du travail. Et faut accepter aussi le fait qu'il faut donner de la valeur à son travail. Je m'explique. Ce qui arrive très très souvent, ça je l'ai vu dans mon activité, mais je le vois aussi surtout avec certains de mes collègues ou amis, c'est qu'on a des clients qui vont me dire écoute, moi je connais quelqu'un qui fait moins cher, tu veux pas me baisser le devis, ça tu veux, enfin je comprends pas, mais combien tu prends à l'heure, mais il n'y a personne qui prend autant à l'heure. Oui, mais
Les donneurs de
tout ça,
conseils, j'appelle ça moi.
exactement. Donc ça, faut être vraiment assez sûr de soi et assez ferme sur les prix que l'on donne à ses clients. Parce qu'on oublie beaucoup que quand on dit par exemple, ben je prends, je ne sais pas moi, 120 euros de l'heure, que sur ces 120 euros, ce n'est pas 120 euros qui vont aller dans ma poche. Il y a la partie de la sécu que je vais payer, il y a la partie de mes congés que je vais payer, il y a la partie pour quand je ne vais pas pouvoir travailler, qu'il faut payer aussi, hein, parce que le chômage, on ne l'a
Il
pas,
faut
la
cotiser, hein.
partie de la retraite. La partie de je travaille parce qu'il faut que je fasse des devis, que j'aille me renseigner, il faut que je me forme, il faut que je paye mes logiciels, il faut que je paye mon internet, mon
Et ton
électricité, tout
matos.
ça. Donc voilà, il faut pas se faire intimider aussi par les gens qui savent mieux, entre guillemets, et qui vous trouvent trop cher. Faut calculer son travail, ce qu'il vaut, et il faut calculer tous ses apartés aussi,
Tous ces coûts,
parce que sinon on ne peut pas s'en sortir.
Ben, je pense que tu as vraiment tout résumé dans cette partie-là. Non, mais je pense que c'est super clair et c'est ce qu'oublient les clients. Le client ne voit toujours que le prix qu'il paye en disant moi je paye, comme tu as dit, 120 euros de l'heure, j'en sais rien, ou 100 euros, mais 100 euros, je veux que la valeur de, j'en sais rien, moi, une interface graphique avec des logos. Ça ressemble à ça et pense que tu vas passer le temps dessus. Et en fait, tu vas pas cette heure-là. En fait, peut-être que tu vas passer 3 heures pour 1 heure facturée, parce que tu vas avoir une idée, tu vas être inspiré. Il y a tout le vécu derrière qui est ta personnalité. Comment tu penses le logo, c'est aussi comment tu as absorbé ce que voulait le client et le traduire, quoi.
Il y a aussi quelque chose dans les métiers artistiques dont on parle pas déjà, c'est que pour les gens, notre travail, ce qu'on fait, c'est facile. On a des logiciels qui sont magiques et qui font tout apparaître comme ça par magie. Et puis c'est rigolo comme métier, on fait du dessin après tout, hein. C'est pas un vrai travail, tu comprends? Donc pourquoi est-ce que je devrais payer pour ça? Après tout, t'as juste mis de la couleur et puis t'as trouvé une typo qu'il y avait. Il y a tout ce côté-là qui est un peu humiliant, je dois dire, où où c'est très difficile de faire comprendre aux gens que ben, oui, j'ai étudié 5 ans, j'ai équivalent d'un master. C'est, tout le monde ne peut pas faire ce que je fais, tout le monde ne sait pas ce que je fais, et que derrière, il y a des briefings, il y a de la réflexion. Moi, mes projets, quand je dois créer quelque chose, je les emmène avec moi sous la douche, je les emmène au supermarché, je suis tout le temps avec ça. Donc, c'est quelque chose qui est très prenant, et c'est quelque chose qui est réfléchi et qui a de la valeur. Il y a aussi, les gens qui disent, ah ouais, mais ça, en fait, ça me plaît pas, j'ai pas le payé. Quand on va dans une boulangerie, tu achètes une chocolatine, la chocolatine, t'es pas bonne, est-ce que tu vas en venir voir ton plan? La chocolatine, par contre, je vais pas la payer. Hein. Tu regardes le boulanger d'à côté, il a fait vachement moins cher la chocolatine.
Il va
Pourquoi
te
tu
dire,
vas
bah,
payer
tu vas voir à côté.
Mais c'est exactement ça. C'est quand les gens, tu leur mets ce genre d'exemple, ils disent, oui, c'est pas pareil.
Et
Ou
si, pourtant,
alors.
c'est un artiste, hein, le boulanger aussi, hein, faut pas croire.
Exactement, mais je veux dire, ça viendrait à l'esprit de personne de faire ce genre de choses avec un boulanger, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il pourrait le faire avec nous? Ou alors, tu as les clients qui veulent les documents sources, hein, ou que les images que tu as faites, ben, ils puissent s'en servir comme ils veulent. Tu vois, la notion de copyright, c'est
Qui
quelque
est complètement
chose qui est très.
bafoué. Ouais, ça, c'est le terrible.
Ouais, c'est quand tu achètes une voiture, tu n'achètes pas les plans de la voiture.
Non,
Tu
non,
achètes une voiture. Tu peux pas demander à ton constructeur de la voiture qui t'envoie les plans avec les secrets de fabrication, les choses comme ça, pour que toi, tu puisses
tu achètes un
refaire
design
les plans.
spécifique parce que tu t'identifies à ce genre de marque et ainsi de suite, quoi. C'est ça qui, ouais. Bah, non, mais c'est, non, mais
C'est moi.
je trouve ça vraiment bien comment tu l'apportes. Bon, je peux imaginer que tu vas avoir des clients qui restent pantois, mais c'est bien aussi parce que je pense que pourquoi tu vas te, je sais pas comment on dit, je pars chez nous, on dit t'enquiquiner. C'est plutôt du sud-ouest, je pense, ce genre d'expression. Mais tu as dit chocolatine, donc on salue nos amis parisiens. Hein. Mais on ne discrimine personne. Hein. Vous venez comme vous êtes ici. Hein. C'est le podcast de Monsieur Joe. On a beaucoup d'humour. Chacun vient comme il est. Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment bien ce pourquoi on va s'enquiquiner avec des gens qui remettent en question et qui sont des donneurs de leçons en disant, ouais, mais ça c'est mieux, mais c'est moins cher. Mais alors pourquoi tu es là? Tout simplement.
Mais il y a des choses aussi, je ne veux pas être trop dure non plus, parce que
Non,
la plupart des gens qui ont ce genre d'attitude, il faut plus les éduquer et leur expliquer. Parce qu'après, une fois que tu parles avec eux et que tu leur expliques les raisons, ils
non.
comprennent.
Ouais.
Ouais,
C'est une
ça aide. Bon,
méconnaissance.
ils ont un peu, mais il faut l'assimiler, mais ils comprennent. Après,
Ouais.
tu vois, quand on leur dit, non, tu ne peux pas voler une image sur Google Images, tu vois, mais si
Ouais.
tu t'en fiches pas, mais non, il y a un photographe
Il y a
derrière.
un travail derrière.
Il y a quelque chose, c'est du vol.
Ouais. Je suis ravi
Et
que
c'est
tu
pas.
viennes parler de ce sujet-là parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent et c'est vrai que ben, on pense que le tout gratuit, non, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont travaillé derrière. Moi, je suis toujours conscient que, ben oui, peut-être ça coûte un peu plus cher. Oui, il y a des gens qui mettent à disposition des éléments et moi, par exemple, la musique, j'ai un habillage. Je suis allé regarder qu'est-ce qui était libre de droit, il faut le citer, ça met la personne en avant. Tu vois, c'est important, c'est-à-dire que c'est comme le podcast, tu vois, c'est accessible gratuitement pour tout le monde, mais il y a un travail derrière, il y a un temps passé en me disant, mais ouais, mais ton podcast, tu pourrais faire la qualité, combien tu fais, pourquoi tu factures pas, il faut que tu monétises cela. Oui, mais je pourrais le faire. Et il y a un travail derrière, tu vois, je mets en avant ton travail, on va mettre un habillage, tu vas partager peut-être une image, on va dire, tiens, c'est le copyright de Laetitia, voilà ce genre d'exemple, mais c'est protégé, et les gens oublient ça.
Maintenant, on a tellement. Le monde de l'image de nos jours est devenu quelque chose de tellement saturé. Je veux dire, maintenant, tout le monde peut faire des jolies photos avec un téléphone portable. Tout le monde peut faire la musique, tout le monde fait des vidéos sur YouTube. Tout le monde, et on a perdu la valeur du travail qu'il y a derrière, de la qualité. C'est que comme il y en a tellement, après tout, pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour ça? Tu vois, c'est. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux, je trouve, parce que va arriver un jour où je vais dire à la personne, en fait, je fais, et moi, pourquoi est-ce que je devrais te payer? Pourquoi est-ce que je devrais payer pour être assuré ma voiture? Pourquoi est-ce que je devrais payer pour mes freins? Pourquoi est-ce que je devrais payer pour ça? Pourquoi c'est pas gratuit? Il y a plein. C'est-à-dire que c'est que les gens, tant qu'ils ne sont pas concernés à tous ces trucs-là, comme c'est, il y en a tellement et que tout le monde fait ça, c'est facile, mais je veux quand même le meilleur, mais je veux pas payer pour. Tu vois?
Ouais, après, je pense qu'il y a une. Après, ça vient de génération. Je pense que. Après, on va finaliser un peu là-dessus. Ben oui, tout travail, toute production, que ce soit artistique ou autre, il y a un travail derrière, il y a un coût, et je pense que c'est toujours important, pourquoi il y a des copyrights, d'indiquer aux gens, ben oui, il y a un travail derrière, le cuistot, quand tu vas au restaurant, tu payes ça, tu vas pas dire, non, mais moi j'ai mangé que ça, je ne paye que ceci, ou j'impose mon prix. C'est malheureusement, c'est un sujet qu'on pourrait débattre longuement, mais j'aimerais bien un peu. Donc, Laetitia, sur ses conseils, donc, bon, on l'a résumé, il y a le métier et l'auto-entrepreneur. C'est en fait un homme orchestre, tu une micro-entreprise, hein, c'est pour ça auto-entrepreneur. Tu dois tout gérer, ton métier, mais en plus tous les à côté, la comptabilité, le marketing, suivre le paiement des clients. Et tous les à côté. Donc c'est vrai que ça peut être, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement donné pour tout le monde. C'est bien ça.
Exactement. Et
Mais
en tout cas, c'est quelque chose faut être préparé à devoir gérer tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se lancent à leur compte en disant ouais, c'est facile, je fais mon truc, j'ai pas de patron au-dessus de moi. Non, mais tu as des clients, c'est peut-être pire parce que le patron, c'est une personne, tu la connais, tu arrives à gérer, etc. Mais quand tu as plusieurs clients et plusieurs personnes à gérer, c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir être diplomate. C'est pas simple, c'est quelque chose, faut en être conscient. Ça peut aller à beaucoup de personnes, il y en a d'autres à qui ça va pas aller, ce mode de fonctionnement. Puis c'est aussi toute la discipline qui est à côté, hein. Il faut se lever le matin, tu vois, comme pour n'importe quel boulot. Faut accepter de travailler des soirs, faut accepter de travailler des week-ends, faut accepter de prendre ses vacances quand on peut les prendre et pas forcément quand on veut les prendre. Faut une certaine discipline aussi, mais il faut essayer quand même, tu vois, faut voir. Après, ça marche ou ça marche pas. Ça se
Oui,
voit.
après c'est en faisant qu'on apprend. Moi, je pars du principe qu'il faut faire pour apprendre.
Exactement.
Donc, tu as résumé ça, la discipline, la consistance en faisant quelque chose, la constance, pardon. Ben oui, il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever. Ben oui, moi je dis toujours, j'aime bien faire le parallèle, c'est-à-dire que en ce qui concerne l'Allemagne, je pense qu'en France c'est un peu similaire. Il y a des parties de ton métier qui sont intéressantes, hein, qui sont passionnantes. Et puis il y a des parties qui doivent être faites, mais que tu n'aimes pas. C'est un peu comme les impôts. Chaque année, ben oui, il faut les déclarer pour pouvoir récupérer les parts plus payées ou récupérer certains frais. C'est chiant. Mais ben, une fois que c'est fait, au moins tu sais pourquoi tu l'as fait
Passer
et l'objectif. Voilà.
dans la vie, de manière générale, on ne fait pas toujours ce
Ce
qu'on
qu'on
aime
veut.
faire ou ce qu'on a envie.
Ouais.
Mais c'est aussi ce qui fait qu'on apprécie encore plus
Ce qu'on
une
aime.
chose que l'on aime faire, tu vois.
Exactement. Très bien.
Ça peut s'appliquer à tout.
Ouais.
Mais il faut juste en être conscient, que c'est pas être à son compte, c'est pas seulement faire que ce qu'on aime, que ce qu'on sait faire. Par exemple, les chiffres, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je paye je dois y opérateur, enfin, mon comptable pour qu'il le fasse. Il y a des choses que je ne suis pas à l'aise avec, mais il faut qu'elles soient faites. Donc, on les fait, puis c'est comme ça. Puis...
Exactement. Mais écoute, très bien. Merci Laetitia pour tes explications, ton parcours, ta présentation, tes conseils. Super passionnant. Je pense qu'on pourra en discuter des heures. Mais bon, sinon, on va perdre des auditeurs. Laetitia, comment on peut te contacter? Un petit rappel de tes coordonnées.
Mais écoute, j'ai un site internet, c'est ae-graphicdesign.com. On peut voir mon travail, mon portfolio. Et sinon, on peut me trouver sur LinkedIn.
Oui, on mettra un lien. Alors, en fait, pour la petite blague, on donne juste le prénom de Laetitia et je comprends. Pour que nos amis. C'est un petit jeu de piste. Donc, si vous arrivez à la trouver sur LinkedIn, on mettra le lien. Si tu le souhaites, on verra ça par la suite. Merci, Laetitia.
Voilà, bon, on
Voilà.
peut mettre le lien LinkedIn et le site web, pas de souci.
Très, très, très bien. Mais écoute, je te remercie de ton passage. En plus, je me rends compte en tant que Bordelais expatrié. Bon, je suis pas très. Pour le Land, c'est pas très Bordelais. D'entendre quelqu'un avec un peu l'accent du Sud-Ouest comme toi, ça nous réchauffe. Hein?
Je le cache pourtant, hein.
Ah, tu le caches et là, tu exagères. Écoute, il me reste plus qu'à te dire. Mais écoute, à bientôt et merci à toi.
Très bien, merci à toi, Joël. Bonne journée.
Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 60e épisode avec Laetitia alias Letty, designer graphique à Berlin, vous a plu. Un petit rappel de ses coordonnées, puisque je pense que c'est toujours bien d'aller voir sa production ou son portfolio. Comme elle a indiqué, le site c'est Alpha Echo, graphique, graphique en anglais, design, tout collé.com. Vous pouvez y voir ses productions, ce qu'elle a fait en graphisme. On peut la retrouver, je vous mets dans le blog associé le lien vers son profil LinkedIn. Et puis je vous invite à écouter, à regarder ce que font les designers. Je remercie encore Laetitia pour son franc-parler avec le soleil du sud-ouest qu'on apporte sur ce podcast. Voilà, je vous remercie à tous de votre fidélité. Je vous invite encore à pousser vos amis à s'abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou d'autres plateformes audio. De mettre aussi sur Apple Podcast des étoiles, je crois qu'on peut mettre jusqu'à 5, un petit commentaire, ça permettra aussi de faire remonter un peu le podcast et qu'on soit plus facilement repérable ou que des auditeurs puissent nous trouver plus facilement. Ensuite, Monsieur Joe essaye de mettre maintenant les différents épisodes sur YouTube en suivant la chaîne de le podcast de Monsieur Joe, vous pouvez trouver ça en cherchant. Vous y abonnez aussi, comme ça vous n'avez pas à chercher à chaque fois les nouveaux épisodes. J'y mets aussi les anciens, comme ça vous pouvez aussi sur cette plateforme les écouter. Enfin, un petit appel aux entrepreneurs, aux associations, à vous, auditeurs. Vous connaissez peut-être dans votre entourage des gens formidables, ou vous-même, vous êtes une personne formidable qui a un parcours atypique et qui a envie de venir nous présenter, nous raconter son parcours personnel, professionnel et son projet aussi. Contactez-nous par LinkedIn ou sur le blog en mettant un petit message. Je crois qu'il y a un formulaire de contact ou sur aussi les différentes plateformes réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. J'essaye au mieux de vous répondre et de se caler un petit échange pour faire mieux connaissance avant un enregistrement. J'en suis convaincu, vous avez toujours quelque chose à apporter, à partager, et c'est un peu ce qui nous motive dans ce podcast, de montrer, d'inspirer les gens, de montrer ce qui se fait, de donner des idées et peut-être de mettre en réseau, qui sait, peut-être que ces gens-là que vous écoutez peuvent vous aider dans vos entreprises, vos projets. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux.